Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Marie Pierce. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vue, c'était en 2006 pour l'Open d'Australie. Elle avait besoin d'un sparring partner et par chance, c'était tombé sur moi. Pendant 2 semaines, j'avais eu le privilège de côtoyer cette immense championne au plus près. Sa relation avec son père, à Dieu et à Roland-Garros qu'elle gagnait il y a 20 ans, on va parler de tout ça bien sûr. Résidente en Floride, nous avons dû enregistrer cet échange par visioconférence, avec les quelques problèmes de son qui vont avec. Je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour Marie Pierce, est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie?
Bonjour Antoine, on se tutoie bien sûr, avec plaisir.
Bon, très bien. Nous enregistrons cette émission 20 ans après ton titre à Roland-Garros en 2000. Nous allons bien sûr revenir sur ce titre un peu plus tard, mais je crois que ton histoire de tennis commence à l'âge de 10 ans. Comment Marie Pierce a débuté le tennis?
Exactement, oui, déjà 10 ans c'est tard. Déjà, mais j'ai commencé avec une copine, voilà, à l'école, une de mes meilleures copines qui jouait très bien au tennis, et puis on passait beaucoup de temps ensemble, soit après l'école on faisait les devoirs ensemble, ou on passait le week-end ensemble, voilà, et puis un jour je suis allée avec elle après l'école et elle avait un cours de tennis, donc je l'ai suivie au club et j'attendais dans le clubhouse, voilà, pour qu'elle termine sa leçon, et puis moi j'étais en train juste de regarder, ouais. Et je regardais par la fenêtre, et puis quelqu'un m'a vu que je regardais, et puis on m'a dit est-ce que tu veux jouer? Je dis ok, oui, pourquoi pas, pour essayer, ça a l'air fun. Donc on m'a dit prends ta raquette et va sur le terrain. Je dis j'ai pas de raquette. Ok, va en bas dans la boutique, le Pro Shop, et demande pour une raquette et va sur le court. Ok, donc je descends, je demande pour une raquette. Et on m'a dit, tu joues avec quoi d'habitude? Je ne sais pas, je n'ai jamais joué. Donc, ok, tiens, prends cette raquette et va sur le terrain là-bas. Donc, on m'a dit d'aller sur un terrain où il y avait un coach avec deux petits, la moitié de mon âge, quoi. Le coach de tennis lançait la balle à la main, etc. Et donc, je vais sur le court, le coach envoie la balle, je tape. Ça passe sur le filet, ça rentre dans le terrain. Et le coach me regarde et me dit, mais tiens, qui t'a dit de venir ici? On me dit, la dame dans le Pro Shop. Non, c'est pas bon, on va sur le terrain. Donc, je change de terrain. 5 minutes plus tard, le coach me dit, mais qui t'a dit de venir ici? Je dis, le coach là-bas. Il me dit, non, c'est pas bon. Donc, j'ai changé de terrain pour la 3e fois. Et sur ce terrain, je suis restée. Et au bout de 30-45 minutes, on faisait des services, on jouait des points. Moi, je ne savais pas trop quoi faire. J'essayais juste de toujours être la dernière pour faire comme les autres et tout. Et puis, on a fini. Et puis, j'essaie de retrouver ma copine. Et puis, il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit, bonjour, je m'appelle Kevin. Je suis le prof ici au club. Et je t'ai jamais vu. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu viens d'où? Et ça fait combien de temps que tu joues au tennis? Je dis, je m'appelle Marie, j'ai 10 ans, je suis copine avec Rachel, je suis d'ici, ça fait à peu près 3/4 d'heure que je joue. Il me dit, non, mais ça fait combien d'années? Et j'ai dit, non, c'est mon premier jour. Il me dit, d'accord, reviens demain avec tes parents. J'ai fait, ok. Et je suis retournée le lendemain avec mes parents et c'est comme si c'était hier. Je regarde, je vois mes parents avec le coach de loin et ils sont en train de discuter. Et puis après, on vient me voir pour dire, Marie, tu vas faire comme ta copine Rachel. Tu vas prendre des cours de tennis après l'école 3 fois par semaine, 1 heure. J'ai fait ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le tennis.
Très vite, tu as été détectée par la Fédération américaine.
je pense, un an, 2 ans peut-être après. 2 ans D'accord. après, j'étais première en Floride, moins de 12 ans, première aux États-Unis. J'ai gagné ouais. tous les tournois National Championships et tout ça. Et puis, donc oui, à 12 ans, ils ont bien vu tous les résultats que j'avais. J'ai fait finale d'Orange Bowl aussi, moins de 12 ouais. ans. Et donc, à partir de 13 ans, c'est là où mon père m'a dit, ben voilà, tu ne vas plus jouer en junior, c'est fini, je veux que tu joues sur le circuit professionnel.
D'accord. Mais
à 13 ans, on ne peut pas, on est trop jeune, il faut
c'est compliqué.
Attendre avoir 14 ans.
Tu viens de le dire, ton papa donc, te dit, et déjà à 13 ans, il a une vision pour toi ?
Ah bah oui, je crois bien, parce que je pense que le premier jour, l'entraîneur a dû dire à mes parents que bah, votre fille est douée, ou je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais bon, bah, depuis ce jour-là, mon père, il était à tous mes entraînements.
Ouais. Donc,
chaque jour, chaque entraînement, il était là. Et puis même le week-end, il avait acheté un gros panier, il a acheté plein de balles de tennis. Et puis le week-end, il m'emmenait sur les cours municipales et on jouait pendant des heures et des heures et des heures. Il m'envoyait des balles et c'est impressionnant. En fait, quand je pense en arrière ce que mon père a fait, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui ne jouait pas au tennis, qui n'a pas d'expérience, bah, il était là à chaque séance de tennis que j'avais. Il écoutait le coach de près, il regardait tous les matchs de tennis à la télé, il les enregistrait, il lisait les magazines de tennis chaque mois, il achetait okay. les livres des meilleurs coachs sur technique, sur les exercices, sur tout. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et donc, bien sûr, je pense qu'il avait une vision pour que bah, il va essayer de créer une championne.
D'accord. Est-ce que tu crois que cette passion qu'il a mis justement à se former comme ça en faisant les choses, en fait, il a appris en faisant? Parce que j'ai lu un peu qu'il y avait eu des frictions avec tes entourages, avec tes entraîneurs de l'époque et avec ton père. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti à cet âge-là ?
Oui, bien sûr. Depuis très jeune, donc mon père, il était très compétitif, on va dire. Et très tôt, bah, quelques mois après que j'ai commencé le tennis, on m'a dit… tu vas commencer à jouer des matchs, tu vas commencer à jouer des compétitions. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que déjà, il fallait que je joue contre ma copine et je ne voulais pas la battre et jouer contre elle. Et je me sentais mal. Donc, mais mon père voulait que je joue, il voulait que je gagne. Et c'était difficile. Et puis avec les autres entraîneurs, par exemple, ce n'était pas toujours facile, c'était compliqué. Mon père, il laissait pas n'importe qui m'entraîner, en fait.
Ouais.
Et bien sûr que j'avais des entraîneurs au début, mais ils prenaient de plus en plus de place à m'entraîner
ouais.
avec le temps qui passait. Mmh. Et à 13 ans, voilà, c'est là où mon père a dit bah, maintenant, on a besoin d'aide. Donc, ouais. il a demandé au USTA s'il voulait bien nous ouais. aider. Et puis, ils ont dit oui, si Marie travaille avec une de nos entraîneurs nationales, et puis
pas
de problème. Mais mon père a dit non, c'est moi le coach. Et donc, comme mon père, il avait déjà une très mauvaise réputation parce qu'il ouais. criait, il y avait des bagarres avec. D'autres parents sur les tournois, etc. Bah, le USA ne voulait pas que mon père soit mon entraîneur. Et comme mon père voulait être mon entraîneur, il a dit non. Donc, c'est là où il a demandé à ma maman de contacter la Fédération française de tennis.
Donc, c'est pour cela que tu es venu en France.
Et voilà. Et donc, ils ont dit oui, bien sûr, viens en France. Donc, on est parti. Bah, j'avais 13 ans, on est parti, ouais. On a déménagé pour la France. Je ne parlais pas du tout français, quelques mots. C'était très difficile parce que j'aimais beaucoup bah, la Floride, les États-Unis. J'aimais beaucoup l'école parce que j'étais ouais. à l'école. C'est là où mon père il m'a retirée de l'école à 13 ans. Et j'étais triste parce que voilà, j'aimais beaucoup. Et puis, on arrive en France et voilà, bon, c'est vrai que j'ai de la famille en France, des ouais. tantes, des cousins, des cousines, etc., qui parlent anglais. Donc, grâce à eux, mes cousins et cousines, ils m'ont appris à parler le français, et bien sûr ma maman aussi. Mais voilà, c'était dur, c'était difficile, c'était très compliqué. Et puis je me souviens au début, je rentrais chez moi, je pleurais et je disais, je comprends pas ce qu'on me dit, je peux pas jouer avec les autres enfants, ils me comprennent pas non plus. C'est très difficile de faire des amis et de jouer avec d'autres enfants quand on ne pouvait pas parler et communiquer.
Ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression de comprendre que tu as pu souffrir de cette situation-là, mais à côté, tu as continué à avoir des très, très bons résultats puisque tu as été très précoce pour arriver sur le circuit WTA.
Oui, c'est incroyable.
Quand tu regardes en arrière, comment tu as réussi à faire ça ?
Antoine, tu sais, je ne sais pas. C'est vraiment incroyable quand je pense à tout ça. Après, je me dis, comment j'ai fait ? Il y a une force, il y a une telle force intérieure déjà à un si jeune âge parce que voilà, pour mon père qui était mon entraîneur, d'être entraîné par lui, qui était très, très dur, très difficile… Qui était des fois très méchant et qui était abusif. Donc, c'était dur, quoi, mentalement, émotionnellement, physiquement, au bout, presque tous les jours, des larmes souvent, peur, parce que si je jouais mal ou si je perdais, mon père était très fâché, très énervé avec moi, donc j'avais peur de lui. Donc, pour moi, c'était comme si j'avais pas trop le choix. Je n'ai pas senti que je pouvais dire non, j'ai pas envie de jouer au tennis, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'arrêter. Je sentais pas que j'avais le choix, en fait. Et je le faisais, et je le faisais bien. le truc, si je jouais pas bien et je perdais mes matchs, je jouais bien, je gagnais beaucoup, j'avais beaucoup de succès. Et donc, c'est pour ça aussi, je crois que mon père m'a vraiment poussé, m'a beaucoup poussé dans les entraînements et, et dans les tournois. Et c'est pour ça que quand on est parti habiter en France, mon père a dit, quand on avait besoin d'aide, la Fédération française de tennis a répondu positivement. Et donc, tu vas être fidèle et tu vas jouer pour la France, le pays de ta mère. J'ai fait, OK. D'accord.
Tu n'avais pas trop ton mot à dire ?
Non.
Ouais. Ce que je comprends.
Pas du tout. Voilà, donc à 14 ans, j'ai commencé à jouer sur le circuit professionnel pour la France avec mon père comme mon entraîneur et très souvent mon frère comme sparring. J'avais des sparring. Voilà, donc c'était mon père, mon entraîneur et j'avais des sparring, donc des hommes. Ouais. Et puis quand on voyageait pour les tournois, j'avais mon frère qui était mon sparring très souvent. Okay.
D'accord. À quel âge tu arrives chez Nick Bollettieri ?
Alors, ça c'est à 18 ans.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc, tu fais toute cette partie-là donc de 14 à 18 ans. Et puis, très vite, à 18-19 ans, tu as du succès puisque tu te retrouves en quart de finale contre Sabatini à l'Open d'Australie. Tu as même des balles de match. Désolé de te rappeler ce mauvais souvenir, peut-être. Et tu finiras même l'année au Masters, je crois. Qu'est-ce que tu as trouvé en Nick Bollettieri ?
Oui, en fait, c'était une époque de ma vie très compliquée.
Ouais.
Parce que j'avais hâte d'avoir 18 ans. Pour moi, c'était ouf, j'ai 18 ans, je pars, je quitte ma famille, je quitte cette situation parce que c'était vraiment l'enfer sur Terre. Je ne pouvais plus continuer de vivre comme ça. Mm-hmm. Et 18 ans, je pars, je vais habiter chez une amie, une copine. Ouais. Et je prends le temps pour savoir vraiment qu'est-ce que moi je veux faire. Maintenant, c'est moi qui va décider qu'est-ce que je veux faire avec ma vie.
Bien sûr.
Et donc, pour 3 mois, je fais ce que je veux. Et après 3 mois, je fais « OK, écoute, soit je peux retourner faire mes études parce que je n'ai pas encore eu mon bac.
OK.
Soit je peux continuer de jouer au tennis ou je travaille, je prends un boulot quelconque, n'importe. » Et au bout de 3 mois, je décide « Non, je crois que je vais continuer de jouer au tennis. » Donc, c'est là où j'appelle Nick Bollettieri et demande s'il peut m'entraîner. Et il m'a dit « Oui, viens pour une séance et puis après, on verra. » OK, je vais… Après, il me dit, OK, c'est bon, on commence. Et moi, j'étais très contente. pour moi, c'était un honneur de travailler avec lui parce qu'il travaillait déjà à l'époque avec toutes les grands champions et championnes. Et donc, pour moi, Nick, c'est devenu presque ouais, comme un deuxième père, ouais. si tu veux, parce que je sais que déjà, il est passionné pour le tennis et ce qu'il fait, sa vie donnée complètement à ça. Et je sais que il est concerné par toi, par ta vie.
Sur le plan humain, il était beaucoup plus présent.
Voilà, exactement, humain. Tu sens qu'il est concerné par toi, par ta vie et aussi pour ton tennis, pas que le tennis. Et donc, lui, Nick, il est incroyable. Il a une manière de retirer le meilleur de toi-même. Et c'est impressionnant parce qu'il arrive à faire ça avec chaque joueur et chaque joueuse. Et tout le monde est différent. Et c'est vraiment un don de pouvoir, d'être capable, en fait, de faire ça. Et pour moi, l'entraînement avec lui, c'était très intense. C'était de la haute qualité. Il retirait toujours la meilleure de moi. Et j'étais très contente de travailler avec lui. Et ça a mis beaucoup de professionnisme aussi dans mon tennis. Donc, j'avais D'accord. un coach de tennis professionnel. J'avais une équipe autour de moi qu'on a mis en place avec un coach qui voyageait avec moi sur les tournois qui était Sven à l'époque, Sven Grönneberg. Après, j'avais mon préparateur physique, José Rincon, qui voyageait avec moi aussi sur les tournois. Et ça ne se faisait pas en 95 quand j'ai gagné l'Australie. Bah, j'avais mon coach de tennis, mon préparateur physique et j'avais Nick. Qu'on voit aujourd'hui, mais il y a 20 ans, 25 ans, on ne voyait pas ça.
Et puis, c'est très mature de ta part parce que tu, à cet âge-là, tu n'as que 21 ans.
Oui, bah, en fait, quand j'ai gagné l'Open de l'Australie 95, oui, j'avais 20 ans en fait.
Ouais.
Et bah, c'est ce qu'on avait mis en place, c'est ce que j'avais besoin. Et moi, je voulais faire le meilleur possible et mettre tous les atouts dans mon coin pour pouvoir essayer d'avoir les meilleurs résultats. Et donc, ça a amené beaucoup de professionnalisme dans mon tennis quand j'ai commencé avec Nick.
Tu remportes l'Open d'Australie, donc 1995, sans perdre le moindre set. Tu atteins ton meilleur classement, 3e mondial. Tu devais te sentir très, très forte à ce moment-là, à 21 ans.
Oui, je me sens très, très forte, c'est sûr, physiquement, mentalement, mon jeu, mon tennis. Et puis, je sais que j'avais beaucoup de marge de progression encore aussi.
Et ça, c'est incroyable.
Et c'est ça qui me motivait, en plus d'avoir du succès jeune comme ça, et de savoir que bah, je pourrais encore m'améliorer. Donc, c'était excitant.
Tu as fait encore des belles années, victoire en Fed Cup en 1997, des belles années aussi en 98 et 99. Et puis, on arrive et on est obligé d'en parler parce que ça fait 20 ans et que on est fier. On arrive à ton titre à Roland-Garros en 2000. Qu'est-ce que tu ressens 20 ans après, là, aujourd'hui, quand tu te retournes?
C'est incroyable, Antoine, de croire que ça fait déjà 20 ans.
C'est vrai?
20 ans depuis que j'ai gagné Roland. Non, mais c'est fou!
Tu as l'impression que c'est hier?
Bah, j'ai pas l'impression que c'est hier, mais j'ai l'impression que c'est il n'y a pas longtemps, en fait.
D'accord.
C'est ça, mais 20 ans, c'est bah, pour moi, c'est beaucoup. Et bah, j'ai pas l'impression que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans depuis que j'ai gagné Roland et c'était bah 2000, c'est une année bah magique pour moi. C'est une année où il y a beaucoup de choses qui s'est passé en moi personnellement et dans ma vie. En mars 2000, c'est l'année où je deviens chrétienne.
Oui.
Et ça m'a complètement changé, ça a bouleversé ma vie.
Excuse-moi de te couper, concrètement, comment ça s'est passé quand tu dis en mars 2000, c'est une rencontre, c'est quelque chose?
Oui, exactement. Donc, j'ai grandi catholique et j'allais à la messe tous les dimanches et j'allais à l'école catholique, etc. Donc, je croyais toujours en Dieu et je priais. Mais quand j'ai quitté ma famille à 18 ans et j'ai commencé à avoir beaucoup de questions, dans la vie, etc. Ouais. Pourquoi? Et puis, bien sûr, commencer à faire ma quête spirituelle aussi, de savoir qu'est-ce que je crois, pourquoi je suis là, après, etc. Et donc, vraiment, je cherchais la vérité, je cherchais quelque chose qui allait répondre à toutes les questions que j'avais, je cherchais quelque chose qui allait me rendre, comment dire, qui allait me donner la paix. Je cherchais la paix et quelque chose qui allait m'apaiser et guérir mon cœur parce que j'étais très blessée. Et je portais beaucoup de non-pardon, beaucoup de haine envers mon père, beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie. Et voilà, j'ai essayé plein de trucs. Il n'y a rien vraiment qui marchait, qui me faisait du bien, etc. Et en même temps que je porte tout ça à l'intérieur de moi et personne n'est au courant, personne ne peut voir.
Bien sûr.
Je continue d'avoir beaucoup de succès dans ma carrière, etc. Ouais. Mais avec tout le succès et avec tout ce que je réussisse dans ma carrière, bah, je sens qu'il y a toujours une vide. Il y a toujours quelque chose qui manque dans ma vie.
D'accord.
Et je ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est. Et ça me frustrait. Et puis, bah, un jour, je rencontre une joueuse sur le circuit, Linda Wild, une Américaine. Et bah, je vois qu'elle est différente. Elle est différente que les autres. Elle a quelque chose. Et je dis, tiens, cette fille, vraiment, elle est différente que les autres. Mm-hmm. Elle est unique. Voilà. Donc, on commence à être copines. Et puis bah là, on commence à parler un jour, etc. Et puis elle me dit, est-ce que tu connais Jésus? Je dis, oui, bien sûr, je connais Jésus. Elle me dit, est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Je dis, bah non, comment je peux avoir une relation personnelle avec lui? Bah, il n'est pas là, comme toi et moi, tu vois. Elle me dit, oui, mais il est vivant. Je dis, ouais, ok, bah vivant, je ne vois pas trop, parce que bon, je connais l'histoire, qu'il est ressuscité, etc. Mais je dis, ouais, il n'est pas trop vivant pour moi, quoi. Elle me dit, mais est-ce que tu crois au ciel et l'enfer? Je dis oui. Mm-hmm. Elle me dit, ok, ben, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Je fais, waouh, personne ne m'a posé cette question avant. Je dis, bah, écoute, je pense que j'irai au ciel. Elle me dit, pourquoi? Je dis, bah, parce que je crois que je n'ai rien fait de trop méchant et assez pour mériter l'enfer. Et elle me dit, bah, ce n'est pas la vérité. Je fais, ah bon? Mais je dis, mais toi, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Elle me dit, bah, moi, j'irai au ciel. Je fais, ah bon, mais comment tu peux être sûre comme ça? Elle me dit, oui, moi, je suis sûre à 100%, pas de doute. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a 100% de certitude qu'il va partir au ciel. Mais comment tu peux être sûre? Elle me dit, c'est Marie, c'est simple. Hein, la Bible est très claire. Il parle de la nouvelle naissance. Donc, si tu crois en Jésus qui est le Fils de Dieu, je dis oui, ok. Si tu crois au ciel et l'enfer, oui, ok. Si tu crois que tu es un pécheur, oui, pas de problème, je reconnais. Bah, c'est tout. C'est Dieu qui... Tu es séparé de Dieu à cause de ton nature de péché. On est tous nés avec cette nature de péché. Bah, si tu reconnais et tu crois et tu es sincère dans ton cœur et tu as la foi, bah, tu as juste à te repentir, demander pardon pour tous tes péchés. Tu donnes ta vie au Seigneur, tu invites Jésus dans ton cœur et tu es né nouveau. Et là, tu as le salut, la vie éternelle. Je fais, ah bon? Elle me dit oui. Et je dis, mais j'ai jamais entendu ça avant. Je t'ai dit... Presque, je me dis, mais comment ça se fait à 25 ans? Je n'ai jamais entendu ça avant. Bref, pour moi, je savais, Antoine, je savais ce qu'elle me disait, que c'était la vérité. Ça parlait à mon cœur, directement à mon cœur. Pas ma tête, mais mon cœur. Et je dis, mais c'est ça la vérité. Et j'ai dit, Linda, tu as quelque chose de différent. C'est quoi chez toi? Elle me dit, moi, j'ai Jésus dans mon cœur. Okay. Ah ben, moi, je savais que je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Donc, pour moi, en mars 2000, je me réveille, je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel à Indian Wells.
Ouais.
Et là, je dis non, voilà, ça y est, j'en peux plus, je ne peux plus continuer ma vie comme ça. Et c'est là où j'ai prié. Et je me suis sentie, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et c'est incroyable parce que j'ai senti vraiment une telle présence du Seigneur, tel amour. Et cette paix que j'étais à la recherche, j'ai ressenti cette paix dans mon cœur. Et cette vide que j'avais en moi a été comblée. Et l'amour et le pardon. Et je savais que j'étais pardonnée. Et je savais que si je mourais ce jour-là, que j'allais au ciel. J'avais cette assurance à 100% et que j'avais jamais avant. Et moi, je voulais cette assurance et je savais que j'avais besoin de Jésus. Et Jésus, j'ai invité Jésus dans mon cœur. Et ça a complètement transformé et changé à l'intérieur. Le Seigneur a guéri mon cœur. Il a enlevé toutes les blessures que j'avais vues. Et tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est comme si bah, c'était même pas moi, c'était quelqu'un d'autre, une autre vie. Et c'est là où le Seigneur m'a montré, ok Marie, tu as besoin de pardonner ton père.
Ok. Et
ah là là. J'ai dit non, 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 mon père, je ne pardonne pas, il ne mérite pas, il m'a fait trop du mal, trop de choses. Non, non, non. Et puis le Seigneur me dit, mais qui tu es pour ne pas pardonner? Moi, je t'ai pardonné de tous tes péchés. Et j'ai fait, oui, Seigneur, c'est vrai. Donc, aide-moi. Et c'était vraiment un miracle pour moi de pardonner mon père. Et après que le Seigneur m'a donné l'amour du Seigneur dans mon cœur pour mon père, et que notre relation après était restaurée, et c'est un miracle, un vrai miracle que je revois mon père, qu'on a une relation, et que mon père, il a eu un cancer au vessie en février 2016. Et j'étais avec lui, j'ai pris soin de lui, tous ses rendez-vous médicaux, les opérations, tout ce que tu veux, et tous les traitements. Et après, il est parti en avril 2017.
Ok.
Et ben, on a eu des moments très, très riches ensemble. Et je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour tous ces moments qu'on a pu passer ensemble et comment j'ai pu prendre soin de lui. Et pour moi, c'est une énorme témoignage, c'est un énorme miracle que j'avais souffert pour mon père après.
Il t'a donné la force de lui pardonner. Est-ce que ton père, lui, quand vous avez recréé un lien, il était désolé?
Mais tu sais, c'est intéressant, beaucoup de gens me demandent ça, mais pendant longtemps, il ne m'a jamais dit pardon. Hein. Ah. Et ce n'est pas grave parce que je l'avais déjà pardonné, mais c'est incroyable parce
d'accord.
que je me suis dit, ben, il ne reconnaît pas. Donc, ça me montre que pour lui, il faisait le meilleur, ce que lui, il croyait était le meilleur pour moi. Mais c'est vrai que ben, ce n'était pas, c'était pas toujours très bien. Mais c'est vrai qu'à la fin, de sa vie, il a dit qu'il était désolé pour tout et qu'il reconnaît l'amour que j'ai pour lui et qu'il était tellement reconnaissant de mon cœur et l'amour que j'ai pour lui et comment je prenais soin de lui.
Je fais juste une petite aparté. Moi, j'ai eu la chance d'être ton sparring partner pour l'Open d'Australie en 2006. Et je me souviens, j'ai le souvenir que tu étais allé à l'église la veille du début du tournoi.
Quelle bonne mémoire!
Mais ça m'avait marqué parce que je me suis toujours posé cette question et là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir te la poser. J'ai pu te voir dans ta préparation, dans tes entraînements. J'ai vu l'immense professionnel que tu étais. Tu faisais attention à tous les détails. Tu ne laissais rien au hasard. Et je me suis toujours posé cette question. Et comment quelqu'un qui veut contrôler tout, peut laisser autant de pouvoir à quelqu'un d'autre, même si c'est Dieu? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Ah, c'est une excellente question, ça, j'adore. Bah, tu sais, en fait, pour moi, c'est comme si, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris, OK, maintenant, je vois que c'est le Seigneur qui m'a donné ce talent pour jouer au tennis. C'était le plan de Dieu pour ma vie. Ça, c'était clair. Après, je me suis dit, OK, bah, je veux faire mon meilleur pour le Seigneur et que lui, qu'il aura toute la gloire et que lui revient. Donc, pour moi, je savais que bah, j'avais ma responsabilité à moi de faire tout ce que moi, je pouvais le mieux possible. Après, bah, le reste, c'était entre les mains de Dieu. Je sais que moi, je ne peux pas contrôler si je joue bien ou si je peux gagner le match. Je ne peux pas. Je peux juste donner 100% de moi-même et prendre du plaisir sur le terrain. C'est tout ce que je peux contrôler. Voilà. Et dans toutes les différentes choses, bah, comme tu dis, les petits détails, oui, j'ai essayé d'aborder mon tennis et de faire le mieux possible. Et c'est dans, moi, j'ai remarqué, c'est dans les moindres de petits détails qui, bah, les petites choses, ça s'ajoute. Et à la fin, ça fait des grandes différences à la fin.
Bien sûr.
Donc, pour moi, j'ai essayé de faire mon mieux possible tout le temps. Hein. Bon, je n'étais pas parfaite, hein, mais on apprend toujours. Mais ouais.
Donc, on va revenir à ce Roland-Garros 2000 et donc cet amour pour Dieu qui se matérialise dans ce chapelet qui a fait parler à l'époque quand tu jouais avec pendant Roland-Garros. Comment tu t'es senti durant toute cette quinzaine en 2000?
Bien, en paix, tranquille, apaisé, en sachant que Dieu était en contrôle de tout et que... Voilà, si j'allais gagner mes matchs ou le tournoi, c'était entre les mains du Seigneur, c'est tout. Et moi, j'avais mon boulot à faire, d'aborder le tournoi le mieux possible, de faire tout ce que je sais que je peux faire le mieux possible.
Ouais.
Et j'étais très concentrée chaque jour, pour chaque match, à faire ce qu'il fallait, dans les échauffements, les préparations, les soins après, les jours de repos, etc. Donc, non, j'étais très bien, j'étais très tranquille, mais aussi très concentrée en même temps.
Surtout que tu étais, avant le début du tournoi, je crois que tu étais un petit peu blessée à l'épaule. Hein.
Oui. avant le tournoi, Roland Garros 2000, c'était 3 jours avant, j'étais même pas sûre si j'allais jouer le tournoi en fait.
Tu te rends compte?
J'avais tellement mal, je pouvais même pas lever le bras. Je sais comment je vais faire, je sais pas. Et pas des bons résultats non plus. Hein, quand on regarde le tournoi avant en Espagne, je crois que j'ai perdu le premier tour, une joueuse qui n'était pas très bien classée ou moins bien classée que moi, ça c'est sûr. Bah, heureusement que j'avais le docteur Montalvo et toute l'équipe autour avec le staff, le kiné, l'ostéo et tout le monde qui m'a bien soignée, qui m'a aidée de pouvoir jouer ce Roland-Garros 2000. Et puis, il y avait beaucoup de soins tous les jours. J'étais presque la première arrivée au stade et j'étais souvent et presque tous les jours la dernière à partir. Et j'avais beaucoup de soins à faire avant les tournois et après les matchs aussi, juste pour pouvoir jouer ce Roland-Garros.
Quel souvenir tu gardes de ce lien avec le public en 2000, le public français?
Ah, c'est fort, c'est beau, c'est magique, c'est puissant. c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on ne peut pas… C'est très, très dur de décrire dans des mots parce que c'est tellement d'émotions et c'est tellement fort.
Ouais.
Et c'est quelque chose que moi, j'ai senti que quand je suis allée sur le court, pour Roland Garros sur le terrain, quand j'arrivais sur le terrain et tout le public, c'est comme si j'arrive et voilà, on est ensemble. Maintenant, c'est pas juste Marie qui est sur le terrain et qui joue son match. Non, c'est on est là, on est tous là, on est ensemble et on fait ça ensemble. Voilà, donc c'était, je joue le match, mais le public est là, ils sont avec moi, ils m'aident, ils me soutiennent. Et le public et mes fans, ils ont un grand part aussi dedans cette victoire de Roland Garros. Donc, ils m'ont énormément aidé, soutenu. Et il suffit juste d'une seule parole de quelqu'un dans la foule qui crie, et puis ça te fait du bien, ça te booste, ça te relève et ça t'encourage. Donc, c'est une force en plus, c'est sûr.
Après ce titre en 2000 à Roland-Garros, la saison 2001, tu te blesses. J'ai regardé, tu ne reviendras vraiment qu'au plus haut niveau. Quand je parle du plus haut niveau, c'est le niveau que tu avais déjà atteint qu'en 2005, vraiment.
Ah là là, c'était tellement difficile parce que j'étais blessée au dos. J'ai une hernie discale et une disque protrusion, donc deux disques. Et j'ai eu très mal et pendant 7 mois, j'étais arrêtée et j'ai tout perdu, quoi, physiquement. Et puis, j'étais complètement hors forme et j'ai essayé de revenir, mais ça a pris beaucoup de temps. Et finalement, quand j'ai changé mon équipe en 2004 et que j'ai commencé à travailler avec Xavier Moreau comme préparateur physique et son équipe, et puis avec mon frère comme mon entraîneur, parce que j'avais mon frère que 2 fois dans ma carrière en 2000 et puis après en 2005, donc ça montre que j'ai eu mes meilleures années avec mon frère. C'est en 2004, c'était juste après Roland que j'ai changé mon équipe et j'ai commencé à travailler avec Xavier et mon frère David et on a bossé. On a bossé pendant 12 mois, voilà. Parce que après, 12 mois après, j'ai les fruits de tout ce travail. J'ai travaillé avec une nutritionniste, diététicienne, tout pour mettre tout en place. Et pour perdre du poids, pour me remettre en forme physiquement, pour travailler mon jeu. Et puis, voilà. Un an après, il parle que... J'ai les fruits de tout ce travail-là et c'était tellement bon parce qu'après en 2005 j'arrive à Roland et j'ai 30 ans et je sais qu'il y a des gens qui parlaient, qui disaient que Marie Pierce, elle est finie, elle a 30 ans, pourquoi elle joue au tennis, c'est bon, elle a déjà gagné Roland, il faut qu'elle arrête, quoi, elle n'a plus de résultats. Et même avant Roland, juste la semaine avant, je suis au CNE, je m'entraîne. Ouais. Et juste dans la salle de gym, sur un appareil de muscu, il y a un monsieur qui rentre, je crois que c'était un coach, et il dit « Ah, tiens, Marie, t'es là !» Je fais « Oui !» Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»
Mais non.
Je m'entraîne. Et il rigole très fort, très haut. « Ah, ok, ha, 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 mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il vient vers moi. et je le regarde. Et là, j'ai compris tout de suite, là, un peu, qu'il voulait me dire. Et j'ai dit, je m'entraîne, il y a Roland Garros la semaine prochaine. Ah bon, ha, 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 il rigole et tout. Il fait, ah bon, tu joues au Roland? Je dis, bah oui. Il me dit, ah, bah peut-être tu vas passer une ou deux tours.
Ah oui, d'accord.
Et je le regarde, je souris et c'est tout. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, ok, on va voir qui va rigoler en dernier. Parce que dans mon cœur, je savais que j'étais pas finie et que c'était pas fini. Qu'il y avait encore des grandes choses à faire dans le tennis. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais dans mon cœur, c'était clair. Donc, c'est pour ça que j'ai continué et j'ai continué à travailler dur. Et ben voilà,
deux semaines après,
en finale de Roland-Garros.
Tu as mentionné ton frère qui a été si spécial pour toi, bien sûr, dans ta carrière, mais je pense dans votre relation. Comment tu décrirais votre relation?
Ah bah avec mon frère, on est très proches. On a 15 mois de différence.
Ouais.
Et on a grandi ensemble. On a fait presque tout ensemble tout le temps. Notre famille était tout le temps ensemble. Donc, on se connaît tellement bien.
Ouais.
C'est pour ça que c'était super de l'avoir avec moi parce qu'il suffit des fois un seul regard. On n'a même pas
besoin
de dire quelque chose, de parler. Et on comprend tout de suite. Et en plus, mon frère, il est complètement différent que moi. Donc, mon frère, il jouait la guitare. Donc, ça me détendait. On est des chambres à côté quand on voyageait. Donc, on passe du temps ensemble à parler. C'est quelqu'un de très profond, de sensible. Donc, on a des discussions. On peut se parler, on peut partager. D'être sur le circuit, on se sent souvent très seul et c'est difficile. Donc, j'avais quelqu'un pour être avec moi, pour passer du temps, pour aller dîner, se promener, balader, faire les choses ensemble.
Bien sûr.
Et puis, quelqu'un de très, 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 très drôle. Donc, il me faisait rire tous les jours. et ça me faisait beaucoup de bien. Ça me détendait aussi. Et même pendant les matchs, des fois, je stressais ou quoi. Et puis, je regarde mon frère et puis... C'est juste une simple geste, et puis ça me détend, ça me fait du bien, ça me fait sourire, donc voilà.
J'ai travaillé 2 ans avec mon frère et je retrouve beaucoup de choses de ce que tu dis. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je reviens donc à cette année 2005, au final à Roland-Garros, finale à l'US Open, et puis qui finit avec, je crois, un chef-d'œuvre que vous livrez en finale du Masters avec Amélie Mauresmo. J'ai regardé des images de ce match. Quel niveau, quel souvenir tu en gardes?
De ce final de
Masters?
Oui, vraiment, c'était vraiment incroyable parce que Amélie et moi, on travaillait toutes les deux avec Xavier Moreau comme préparateur physique. Il était là à Los Angeles, ils s'entraînaient les deux. Et puis avec Amélie, on a une super relation, on s'entraîne très bien, il y a beaucoup de respect. Etc. Et en fait, je l'ai joué parce qu'on était dans le même groupe.
Bien sûr, dans la poule.
Et moi, j'ai gagné tous mes matchs. Donc, en fait, j'ai battu Amélie dans la poule. Et puis après, on est toutes les deux en demi. On gagne nos demi. Et puis, je la retrouve en finale. Je fais, non. Ah là là, il faut que je la rejoue et tout. Je dis, parce que c'est difficile mentalement de rejouer quelqu'un que
bien
tu as
battu
il n'y a que 2 jours et dans le même tournoi. Ça ne se fait jamais dans un tournoi dans l'année. Donc, j'ai dit, ah là là, c'est dur, quoi. Et puis oui, c'était un grand match. Ce jour-là, je me souviens très bien. J'avais tellement mal aux jambes. Et je sais que pour moi, j'ai eu vraiment besoin de mes jambes pour bien jouer. Mon jeu au tennis.
Ouais.
Et puis Amélie, bien sûr, me faisait beaucoup bouger et tout. C'est comme si je sentais que mes muscles déchiraient à chaque fois que je courais partout. Et physiquement, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir 3-7, mais parce que j'avais très mal aux jambes. Oui, je suis déçue que j'ai perdu. Bien sûr, j'aurais aimé gagner ce match. Et puis, comme je l'ai battu il y a 2 jours, donc
bien sûr.
Si j'étais un petit peu mieux physiquement, si j'avais mes jambes, j'aurais pu peut-être gagner ce match.
Mm-hmm.
Mais ça s'est passé comme ça, déçu de l'avoir perdu. Mais après, à la fin, je vois que c'est Amélie et puis elle mérite et je suis contente pour elle. Et je crois que ce match, elle a dit après que ça fait un déclic pour elle.
Okay.
Ça lui a donné beaucoup de confiance et voilà.
Je conseille vraiment aux gens foot tennis qui peuvent écouter notre podcast d'aller voir des images de ce match. Ça joue vraiment très, très, très bien. Est-ce que tu avais des rivales? Est-ce que, par exemple, Amélie Mauresmo, tu la considérerais comme une rivale, même s'il y a de l'amitié, hein?
Non, pas vraiment avec Amélie.
Tu en avais d'autres?
Mon meilleur classement, c'était 3e mondial.
Ouais.
Et dans ma carrière, j'ai pu battre tous les numéro 1 que j'ai joué au moins une fois. Il y avait des joueuses qui étaient plus dures pour moi de battre.
Comme qui?
Pouf, il y avait Davenport, il y avait Sharapova,
Serena. Même si tu les as toutes battues. Hein.
Oui, mais c'était des joueuses, des fois c'est moi qui gagnais, des fois c'était l'autre. C'était des matchs accrochés par exemple.
Oui, bien sûr.
Avec Justine, avec Ingis. Il y avait plusieurs joueuses où j'ai trouvé que ça dépend de l'époque en fait que j'ai joué. Moi j'ai commencé il y avait Steffi Graf et Sabatini Navratilova.
Tu m'enlèves ma prochaine question. Je te jure que c'est ça. Tu as vécu la fin de la génération Navratilova Sabatini Graf et tu as assisté à l'éclosion des Ingis Williams Lichter Sénin.
Voilà. Exactement.
L'antique.
Exactement. En 2006, il y avait Serena, Justine, Kim. J'ai joué avec toutes les grandes championnes, Céleste.
Bien sûr. Est-ce que tu as senti une évolution dans le jeu?
Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé sur le circuit, c'était beaucoup de services volés, revers à une main, revers slice, etc. Et puis, de plus en plus, le jeu commençait à changer avec Céleste qui frappait fort, les deux mains, les deux côtés.
Ouais.
Jennifer Capriati qui arrive, fort du fond, Davenport, Sharapova, tous ces jeux commencent à venir où ça frappe très fort du fond du court. Et puis, après, on finit à la fin avec plus ce style de jeu où ça joue très fort du fond. Et puis après, les services qui commencent à s'améliorer et ça fait vraiment une arme dans le jeu, comme
Serena,
etc.
Mais d'ailleurs, tu parlais de ces styles de jeu qui ont émergé. Mais toi, j'ai posé un peu les questions autour de moi. Tu frappais très fort des deux côtés aussi. Alors, tu as évolué après vers la fin de ta carrière où tu as mis un peu plus de mains, tu as mis un peu plus de lift, tu prenais des volets liftés. Mais tu étais une cogneuse.
Oui, exactement. Comme Yann... une Américaine qui consulte à la télé, Mary Carrillo, elle appelait ça « Big Babe Tennis ». Donc, que je frappais très, très fort. Et puis, j'ai fait une interview l'autre jour avec, je crois que c'était Renee Stubbs, une ancienne joueuse australienne, et elle me dit qu'on lui a dit que je frappais plus fort que Serena. Alors moi, je dis « Ah bon ?» Parce que pour moi, c'est Serena qui frappait le plus fort et j'ai joué contre Serena, donc je sais ce que c'est. Et pour me dire ça, c'est des joueuses qui ont joué Serena et moi. Et pour dire que j'ai frappé plus fort qu'elle, ça va très vite.
je n'ai jamais joué avec Serena, mais j'ai déjà joué avec toi et je peux témoigner, effectivement, ça va très vite.
Merci. Mais c'est quelque chose que mon frère m'a aidé dans mon jeu à intégrer le petit court croisé.
Ouais.
Etc. Parce que mon frère c'était un gaucher qui jouait avec beaucoup de mains, etc. Donc ça m'a aidé dans mon jeu, dans mon tennis, parce que les filles ils attendaient que ça, que je frappe fort.
Ouais, bien sûr.
Mais après que je change le rythme ou que je fais des tours courts croisés, ça ouvre tout le terrain derrière après et c'est ça qui m'a aidé à gagner Roland Garros en fait.
Bien sûr. Justement, moi c'est y a quelque chose de frappant chez toi, c'est cette douceur que tu dégages naturellement et puis de l'autre côté, il y avait cette joueuse avec la violence de ses frappes. Comment on peut expliquer une dualité comme ça?
Sur le terrain, je suis une battante. Voilà. J'ai envie de gagner. Et je me mets dans ce mode-là quand je suis sur le terrain. Et puis en dehors du terrain, c'est autre chose. C'est... la vie quotidienne, la vie de tous les jours, normale. Il n'y a pas de compétition. Donc, je suis quelqu'un de différente, c'est sûr, en dehors du terrain.
Je pose cette question à tous et toutes mes invités. quand tu regardes ta carrière, elle est venue d'où ta rage pour réussir?
Ah, ça c'est une excellente question. Ça vient à l'intérieur et est très 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 profond. Parce que quand on passe des moments durs, difficiles, bah, il faut aller chercher loin, il faut aller chercher dans les tripes, il faut qu'on a tellement envie et besoin, c'est tellement fort. Je ne sais pas.
J'ai lu que tu n'avais pas eu une enfance très aisée d'un point de vue matériel. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact?
Bah, c'est sûr que d'avoir une enfance comme ça, on n'est pas déjà gâté. Il n'y a rien donné. Et pour avoir quelque chose, il faut bosser pour et mériter. Mmh. Et on sait vraiment la valeur des choses quand on a quelque chose et quand on l'a, on prend soin et on est reconnaissant. Oui, et puis il faut travailler pour. Il y a rien qui vient facilement, ça c'est sûr.
Tu n'as jamais vraiment annoncé ta retraite. Est-ce que c'est dur pour une joueuse de tennis de choisir sa sortie?
C'est intéressant parce que je me suis dit oui, à 30 ans, je vais prendre ma retraite, je vais me marier, je vais avoir des enfants, etc. Mm-hmm. Et, à 30 ans, je jouais toujours, même à 31, je jouais très bien, je me sens très en forme. Et bah, c'est là où je me blesse.
Exactement.
Et bah, ça, c'était pas prévu, c'était pas dans les plans, ça.
Ouais.
Donc, ma carrière s'est arrêtée, s'est arrêtée comme ça, sur un terrain de tennis, en tournoi, à Linz, en Autriche, en match contre Vera Zvonareva. Et d'une seconde à l'autre, bah, je suis sur le court en train de jouer un match. Et puis, de l'autre seconde, bah, je suis à l'hôpital en train de faire des IRM, de savoir qu'est-ce que j'ai fait au genou. Mmh. Et on m'a dit qu'après, si je veux rejouer, j'ai besoin de me faire opérer. Donc, OK, je me fais opérer et je fais les soins, la rééducation.
Ouais.
Et on m'a dit, d'ici 4 à 6 mois, tu seras de retour sur les terrains. Mais 6 mois après, même pas capable d'étendre ma jambe complètement, normalement.
Ah ouais.
Je ne me sens pas normalement, j'ai toujours mal. Et ça a duré pendant 2 ans, personne ne comprenait. Donc, je me suis dit, OK, bah, pas de problème. Je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur, qu'il est en contrôle de tout et que si c'était la volonté du Seigneur que je rejoue, bah, je serais déjà...
Mm-hmm.
Donc, il a autre chose pour moi. Donc, je dis, OK, qu'est-ce que tu as, Seigneur, pour moi maintenant? Et bah, c'était de faire de l'école biblique, quelque chose que je voulais toujours faire. Et bah, je suis partie à l'île Maurice parce que j'ai découvert une église là-bas qui correspondait exactement à ce que je crois et ce que je voulais vivre. Donc, je suis partie là-bas en 2008 pour faire l'école biblique et autre chose. Et donc, c'était pas comme si c'est moi qui ai décidé maintenant, OK, j'arrête ma carrière. Et ça s'est passé comme ça. Et puis, moi, j'ai accepté et puis j'ai commencé à faire autre chose. Voilà. J'imagine que ça peut être quelque chose de difficile d'annoncer sa retraite. Et moi, j'ai jamais annoncé, en fait, parce que je me suis dit, bah, peut-être un jour, j'aurai plus mal au genou. Et quand j'aurai plus mal au genou, peut-être j'aimerais revenir. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais annoncé.
Et donc, c'est quoi la vie de Marie Pierce en ce moment?
Bah, depuis ça, c'était très impliqué dans l'église. Et j'avais envie de faire aussi des voyages en Afrique, des voyages missionnaires. Et c'était pas mal et c'était très intéressant, très enrichissant. J'ai entraîné aussi pendant ce temps. Entraîné, j'ai découvert ça et j'aime beaucoup ça.
Ça te tente?
Bah, j'aime être sur le terrain. J'aime transmettre, j'aime donner. Je vois que tout ce que j'ai vécu dans ma carrière... Depuis toute petite jusqu'à mes titres de Grand Chelem, j'ai vécu tellement de choses, j'ai appris tellement de choses que ça peut aider, apporter à quelqu'un d'autre et les aider dans leur carrière. Et je vois que quand ça fait une différence et on voit que ça les aide et ils progressent, c'est très satisfaisant. Donc, moi, j'aime beaucoup plus le rôle de advisor ou manager.
Ok, parce que, conseiller, oui.
Voilà, de conseiller. Parce que j'aime de moins en moins voyager, en fait, tu vois.
D'accord.
J'ai aussi commenté à la télé. Ouais. Pendant quelques années, ça m'a plu, mais encore une fois, le style de vie. Voilà.
Oui, bien sûr.
Voyager, les chambres d'hôtel, faire les valises, les avions. Bien sûr. Non, j'ai commencé à être fatiguée de ça.
Pour revenir sur le rôle de conseiller, est-ce que conseiller d'une Caroline Garcia, une Christina Mladenovic, ça, c'est quelque chose qui pourrait te plaire ?
C'est possible parce que moi, j'ai envie de, comme j'ai dit, de donner, de transmettre. Mm-hmm. Et en fait, tu vois, c'est, il faut voir. Il faut voir, il faut parler, il faut entendre, écouter la joueuse ou le joueur, savoir exactement où ils sont dans leur carrière, qu'est-ce ouais. qu'ils ont envie de faire, si c'est un bon fit, si ça fait une différence. Parce que moi, je sens que, voilà, dans ma carrière, j'ai gagné des grands chelems, j'ai gagné Roland, et je sens que je peux aider les joueurs ou les joueuses qui ont ce but-là, qui ont envie de gagner des grands chelems.
Bien sûr.
Je trouve que c'est ça qui est excitant, tu vois.
Tu as gagné la Fed Cup, tu as fait 2 finales au Masters. Enfin, il y a un palmarès, c'est impressionnant.
Exact.
J'ai une dernière question. Qu'est-ce que le tennis t'a appris dans la vie ?
Oh là là, beaucoup de choses. Ça, c'est une excellente question.
Si tu devais le résumer ou pas le résumer, tu fais ce que tu veux.
Bah, le tennis, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris d'être organisée, d'être à l'heure, de respecter les autres, mm-hmm. De travailler dur, de savoir qu'il n'y a rien qui arrive dans la vie sans travailler,
ouais.
De savoir que le dépassement de soi-même, parfois on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose et on ne va pas arriver, mais si on y croit, voilà, ça c'est encore une autre chose, de croire en soi-même, parce que même si les autres vont dire « Ah non, tu ne peux pas » ou « Non, qu'est-ce que tu fais ?» ou « Non, tu rigoles » ou « Non, mais jamais, tu n'es pas sérieuse » ou voilà, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas possible, mais en toi, dans ton cœur, si tu sais que c'est possible, bah, c'est possible et tu peux le faire. Mmh. Et il n'y a rien qui peut arrêter ça si tu crois, d'avoir confiance en toi-même, de croire, d'écouter cette voix à l'intérieur de toi. On a tous cette voix à l'intérieur de nous.
Ouais.
Et il faut l'écouter et il faut le croire parce que c'est la vérité. Et aussi d'avoir les bonnes personnes dans sa vie, les bonnes personnes dans, voilà, dans notre vie. C'est très important d'avoir l'équipe. Avec qui j'ai travaillé, c'était des gens qui étaient sincères, qui étaient honnêtes, qui voulaient le meilleur pour moi-même. Parce que c'est vrai que malheureusement, ça arrive qu'il y a des gens qui essaient de prendre avantage ou que, voilà, peut-être ils sont malhonnêtes ou on ne peut pas les faire confiance. Donc, on apprend aussi à, encore une fois, écouter cette voix à l'intérieur. Et c'est important, les gens avec qui on a dans notre vie, privée et professionnelle. Et c'est très important d'avoir les bonnes personnes qui vont nous aider à éteindre nos buts et nos rêves. Mm-hmm. Et que, voilà, peut-être le mot de la fin, c'est que c'est important de rêver, quoi. Mon rêve dans le tennis, c'était de gagner Roland-Garros. Et c'est ça qui m'aidait chaque jour, me motiver, parce que c'est vrai qu'on a des jours où on n'a pas envie, où on est fatigué.
Ouais.
Les courbatures, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de faire cet entraînement.
Ouais.
Et après, de se dire, OK, pourquoi je le fais ? Ben voilà, j'ai cette rêve, j'ai envie de faire ça. OK, mais c'est ça qui me motive. Et avec mon équipe derrière moi, qui m'aide à me donner, à dépasser soi-même, tous les jours, moi-même. Et c'est ça. Donc, c'est important aussi de rêver.
Et tu as réussi à vivre ton rêve, remporter Roland-Garros il y a 20 ans. Merci beaucoup, Marie-Pierce, d'avoir partagé ton histoire de tennis avec moi.
Plaisir, Antoine. Merci à toi. C'était un plaisir.
C'était un bonheur. À très bientôt.
Oui, à bientôt. Merci.
Quel plaisir cet échange avec l'une des plus grandes championnes françaises de tous les temps. Elle arrive à tout dire tout en restant pudique. Élégante sur le court comme en dehors. Merci à Marie Pierce pour sa simplicité et sa vérité. Si ça vous a plu, montrez votre soutien en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange, et d'ici là, Eh bien, prenez soin de vous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.